écoutez Info Club Sandwich.
Salut tout le monde, vous êtes à l'écoute de Radio Campus Amiens sur le 87.7 FM, sur le DAB+, ou sur le site radiocampusamiens.fr. Nous sommes le jeudi 4 juin et c'est l'heure d'Info Club Sandwich, votre quotidienne d'actualité locale et associative préférée. Au programme d'aujourd'hui, nous écouterons un reportage de Maël sur la musique folk and trad et une chronique de Sada sur la série Euphoria. Côté musique, Maël a choisi des morceaux des groupes qu'elle a pu rencontrer et qu'elle a pu capter en live. Elle nous fera découvrir un extrait du bal du groupe breton Kendirvi et une polka de Rémi Geffroy. Mais avant, on écoute son reportage.
Les 23 et 24 mai dernier, j'étais présente à Corby pour un festival qui s'appelle Folk and Trad, qui est organisé par le service culturel de la ville et l'association Peu que manquer. J'ai pu discuter avec deux membres de l'association, je les laisse se présenter.
Oui, donc Stéphane, je suis président de l'association Peu que manquer, donc qui diffuse et qui partage la musique traditionnelle au sein de la Picardie, membre de l'association depuis une quinzaine d'années.
Moi je suis Brigitte, la secrétaire de l'association. Je ne dirais pas membre depuis la création, mais presque, et secrétaire depuis bien longtemps, parce qu'il n'y a pas grand monde qui veut être secrétaire. Donc, mais bon, ça fait bien 20 ans que je suis secrétaire.
On est ici ce week-end à Corby pour la 7e édition de Folk and Trad. Est-ce que vous voulez bien présenter un peu la programmation de cette année ?
Aujourd'hui, on a Rémi Geffroy qui vient de Toulouse, qu'on a repéré depuis... au moins 2-3 ans, il a un planning, il est très sollicité, donc il a fallu qu'on mette une option et qu'on attende qu'il puisse se libérer. Et on l'a avec nous cette édition et on est très content. Peu que manquer assurera la première partie de Rémi Geffroy dans le grand bal de samedi soir. Et le dimanche, on fait venir des Bretons, des Purs, de Bretagne, pour un fest-noz de dimanche après-midi en clôture du bal.
En plus des balles, il y a aussi des ateliers, il y a eu de la musique au camping tout à l'heure. Est-ce que vous voulez bien en parler aussi un petit peu ?
Oui, on fait une animation. On a d'abord commencé par faire une animation sur le marché de Corby hier midi, donc pour un peu alerter la population. Et puis, donc, on fait au camping là, mais on a aussi des groupes. Il y a des Anglais qui viennent, et donc là, c'est des qui font des Maurice Dance et qui se sont produits au camping, qui vont se produire aussi en intermède pendant les balles, surtout demain après-midi, je pense, et au kiosque, parce qu'on va faire aussi de la musique au kiosque. Demain midi. Et donc on a donc des groupes définis, puis pour les moments comme le camping ou comme le kiosque, les gens qui ont un instrument peuvent venir et puis se joindre et on fait un bœuf quoi. On est très ouvert.
Il me semble que Folk and Trad existe depuis 2018. Est-ce que vous voulez bien nous parler un peu de comment vous avez créé le festival et comment aussi vous avez choisi Corby, comment vous êtes arrivé dans ce lieu, le Théâtre des Docks ?
Au départ, c'était un festival qu'on a démarré il y a 20 ou 30 ans, à Poix-de-Picardie. Donc, ça avait à peu près la même... mais on appelait ça rencontre de musique et danse traditionnelle. Et puis, on a un petit peu senti qu'on n'était plus tellement bien perçu par la municipalité. Et puis, les gens du coin n'étaient pas du tout intéressés par ce qu'on faisait. Et puis, on a eu l'opportunité de venir à Corby. Et donc, c'est là que... Voilà. Et donc, là, c'est pour ça que c'est devenu Folk and Trad.
Le service culturel de Corby est venu nous chercher et nous a proposé de faire notre festival ici. Nous a laissé libre pour la programmation musicale en souhaitant vraiment nous intégrer dans le programme culturel de la saison et nous faire bénéficier les Corbéens et Corbéennes de tout ce qu'on pouvait leur proposer.
L'association existe depuis 1981, donc je crois que ça fait 45 ans cette année. Est-ce que l'association ressemble encore à ce qu'elle était au début ? Et est-ce qu'il reste des gens de l'origine de la création de Peu que manquer ?
L'association s'est créée parce que il y avait une association qui s'appelait Les Glaneux, il y a très longtemps. Et puis il y a une, ça s'est scindé en deux parce qu'il y avait un groupe qui voulait faire de la représentation en costume, puis un groupe qui voulait faire du bal folk et faire partager les traditions. Et donc c'est devenu Peu que manquer. Et puis, on n'a pas tellement changé la formule. On fait des ateliers de danse, on fait des bals folk, on fait des animations, on fait des stages. Et puis, ce qui nous marque, nous, notre marque de fabrique, je crois, c'est la convivialité.
Oui, c'est ça. Et puis, en termes, tu disais, est-ce qu'on a changé, évolué ? Forcément, il y a des musiciens qui sont arrivés, d'autres qui sont partis. On a eu des grandes pertes qui ont changé vraiment l'identité, des décès, voilà, qui ont été des éléments fondateurs de Peu que manquer. Donc, leur âme et leur répertoire, même les partitions de musique restent, l'esprit reste, mais c'est pour ça aussi, c'est pour le départ des autres qu'on continue.
Disons que ça a renforcé notre cohésion. Les décès qu'il y a eu, parce qu'on a eu une année, c'était 2024, ou 2023-2024, qui a été terrible, et en fait, ça, on s'est serré les coudes, on s'est renforcé.
Est-ce que vous sauriez décrire ce qu'est un bal folk pour les gens qui ne connaîtraient pas du tout ce monde-là ?
Non, le bal folk, c'est danser ensemble sur des airs traditionnels issus du domaine public, des airs qu'on a toujours collectés ou entendus dans les villages, etc. Des danses traditionnelles sans costume ni folklore. D'accord ? On vient comme on est. Le bal trad, le bal folk, c'est partout en France, quand il y a un panneau marqué bal folk, n'importe quel folk de France sait ce qu'il aura.
Il faut dire aussi qu'on s'adapte au public que l'on a. Parce que si c'est des gens qui connaissent, ben on va faire des danses un petit peu plus sophistiquée, et si c'est des gens qui découvrent, eh ben on reprend des danses très, très simples et on leur explique. Et on fait aussi des danses collectives, et ça, les danses collectives, c'est important parce que ça permet d'intégrer les gens qui ont envie de danser. Il ne faut pas être en couple pour venir danser au bal folk. Hein.
Vous avez déjà eu plusieurs gros noms dans l'histoire de Folk and Trad. Je pense par exemple à Chuck Boom, à Chilo Lang que vous avez reçu il y a, je ne sais plus, quelques années, Philippe Lard et Rémi Geffroy cette année. Est-ce que vous avez encore des idées, des envies d'artistes invités pour les prochaines éditions ?
Bon, on ne manque pas d'idées parce que bon, dans chaque région, il y a des sommités, non, mais disons des gens qui nous plaisent aussi parce qu'on a aussi envie de se faire plaisir. Hein, on ne va pas faire venir un artiste parce qu'il ramène du monde. On a aussi envie de danser. Mais bon, il y a encore dans le centre France, dans l'Occitanie, même encore dans les Flandres. Hein, il y a encore, on a quelques idées pour l'année prochaine, mais on ne les dévoile pas.
Pour terminer, est-ce que vous pouvez nous dire un peu quels sont les prochains événements de Puck Monkey ? Où est-ce qu'on pourra vous retrouver ?
Le 13 juin, on est invité à Voyenne, au verger de la Planquette. C'est un jeune qui reprend le verger et donc ils font des animations sur tout le week-end et nous on va animer un bal de 20h à 22h. Voyenne, c'est à côté de Ham.
Et le 10 octobre, on organise un stage de samedi après-midi de danse polka, dérivée de polka et danse du 19e, suivi d'un bal organisé par Puck Monkey. Et le 7 novembre, nous serons à Durie pour l'association Sport et Loisirs de Durie.
Avant le bal du samedi soir, d'autres membres de Puck Monkey animaient un atelier de danse dédié vraiment à la découverte de quelques danses traditionnelles.
Donc on va faire 8 pas de bourrée en avançant. 1, 2... 4, 5, 6, 7 et 8 et en reculant, sans changer de main, 2, on ne change pas de main, voilà, on recule.
J'ai ensuite pu rencontrer Rémi Geffroy, la tête d'affiche de cette édition.
Bonjour, je m'appelle Rémi Geffroy, je suis musicien depuis une dizaine d'années facile, et voilà, je joue de l'accordéon diatonique.
Tu as fait partie de plusieurs groupes dans ta carrière, et actuellement tu tournes avec ton septet également en bal solo. Qu'est-ce que tu préfères entre les deux, entre jouer à plusieurs et jouer solo ? Est-ce qu'il y a des différences en termes de préparation, de répétition, de track aussi peut-être ?
De répétition, c'est sûr, parce que faut pouvoir se voir à 7, alors que tout seul, c'est pas difficile pour trouver des créneaux. Et c'est complètement différent. En solo, je suis quand même plus proche des organisateurs, donc c'est quand même toujours assez intéressant, parce que vraiment, je rencontre mieux les gens que quand on est avec toute l'équipe, on reste plus ensemble, parce qu'aussi, on se retrouve et on a plein de trucs à se raconter. Mais quand même, pour le côté voyage, je crois que je préfère être avec l'équipe, parce que voyager tout seul, c'est pas très marrant.
Tu donnes des balles, mais aussi des concerts. Tu mélanges un peu les styles entre musique traditionnelle, musique classique, tu composes aussi. D'où viennent tes inspirations musicales et aussi tes inspirations en termes d'animation, de danse et de faire danser les gens ?
Ouais, alors du coup c'est toute une histoire, donc je vais peut-être pas raconter toute ma vie là, mais j'ai commencé par les musiques traditionnelles avec l'accordéon diatonique, mais j'ai été aussi formé au jazz, à la variété, pas au classique en fait, le classique vraiment au sens, j'ai pas eu une vraie formation classique, mais quand j'étais en musicologie jazz à Toulouse, en tant que bassiste, donc j'ai eu plusieurs formations d'instruments aussi, j'avais des cours bien sûr en classique avec ceux qui étaient en musicologie classique, mais j'aime bien donc mélanger tous les genres, donc d'où ça vient ? Ça vient de plein d'influences parce que j'ai fait aussi du punk rock pendant 7 ans avec un groupe de punk irlandais. Voilà, j'ai fait partie de groupes de jazz, de variété et de pop rock. Et donc aujourd'hui, j'aime bien, dans mes nouveaux projets, j'aime bien mettre un peu plus de lyrisme. Donc c'est vrai qu'avec le septet, j'ai un quatuor à cordes, une batterie, une guitare. Mais il y a même un nouveau projet qui se prépare où là, je compose pour du piano. Donc là, mes influences principales d'aujourd'hui sont vraiment tournées autour de Jan Tiersen, Ludovico Einaudi ou encore Joe Hisaishi, dont j'adore les musiques. Voilà, donc je m'inspire beaucoup de ça, mais aussi de, bah, donc du rock que j'adore. Et il y a toujours... Enfin, quand on est dans une histoire de bal, comme là, ce soir en solo ou comme des fois en sept-têtes, on est là pour aussi faire danser les gens. Et donc, j'essaie de mélanger tous ces genres tout en étant proche d'une danse. Il faut que je compose pour une danse. Donc, il faut retrouver le pas de la danse dans la composition. C'est un peu ce qu'on appelle du néo-trad aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on est dans de la musique pour faire danser, traditionnelle, mais on n'est pas dans le son brut d'une culture régionale, voilà, d'une aire géographique spécifique.
Tu as cité plusieurs compositeurs de musique de film. Est-ce que tu as un rapport à l'image dans ta composition, dans ta création ?
T'as des super questions parce que c'est vraiment d'actualité. J'ai de l'actualité à dire. Mais non, je sais pas si je dois encore en parler parce que ça n'a pas été annoncé officiellement. Mais là, en ce moment, en fait, je suis en train de travailler avec un réalisateur allemand qui va sortir son film. Et c'est pas un petit réalisateur. Et donc, j'ai la chance, j'ai travaillé pour faire toute la BO, en fait, de son film. Avec notamment l'équipe, et donc ça, bon, c'est une exclue parce que j'en ai encore jamais parlé, et donc voilà, je sortirai ça bientôt. Je ne vous dirai pas qui est le réalisateur et quel est le film, mais vous le saurez bientôt si vous suivez sur les réseaux sociaux. Voilà, donc oui, en fait, j'ai jamais vraiment voulu composer pour la musique de film parce que c'est un monde vraiment à part, mais j'ai toujours apprécié l'idée d'essayer de raconter des histoires dans mes compositions, que la musique puisse s'écouter en plus de se danser. Donc c'est un vrai challenge à chaque fois parce qu'il faut que ce soit lié à la danse et en même temps il faut que ça soit agréable à écouter comme un concert. Et donc c'est vrai que j'ai déjà eu quand même quelques fois des jeunes réalisateurs qui démarraient qui me demandaient s'ils pouvaient utiliser un morceau déjà existant dans leur documentaire ou leur court-métrage. Donc là c'est la première fois où je vais en gros mettre un morceau qui était déjà existant mais pour lequel j'ai aussi fait de nouveaux arrangements pour créer vraiment toutes les ambiances du film. Donc vraiment ça c'est nouveau pour moi aujourd'hui, ouais. Je suis en train de rentrer un peu là-dedans.
D'accord, je vois. Et ben pour finir, est-ce que il y a des prochaines dates peut-être en France ou ailleurs où les gens pourraient te voir, et ou sinon où est-ce que les gens peuvent te retrouver sur internet?
Alors la prochaine date, c'est la semaine prochaine, je suis pas loin de Dijon je crois, à Chevigny, je sais plus le nom, dans le 21 en tout cas, je crois que c'est pas trop loin. Ah si, c'est quand même loin de chez vous. Ouais, parce que moi je viens de Toulouse, alors du coup je vois pas trop la géographie des fois. et donc non, le mieux c'est, parce que même moi je connais pas bien mes dates, le mieux c'est d'aller sur mon site internet, donc remygeffroy.com, ou de me retrouver sur les réseaux sociaux. Des fois je publie pour toutes les prochaines dates, donc faut pas hésiter.
Je suis revenu le lendemain et j'en ai profité pour discuter avec quelques membres de Kendirvi, le groupe breton qui animait le bal du dimanche après-midi.
Oui, alors bonjour, moi je m'appelle Jérôme Leborn, je suis l'accordéoniste de Kendirvi, je suis présent dans ce groupe-là depuis le début, depuis 1999, et voilà, accordéoniste et compositeur d'une partie du répertoire.
Bonjour, moi je suis Gaël Le Bozec, donc je suis le violoniste de Kendirvi depuis 2012. Je suis de formation classique au départ, mais j'ai rejoint ce groupe après une audition pour participer à la musique à danser.
Moi c'est Vincent Vallot, bassiste dans Kendirvi, quasiment depuis le début, 2000 je crois.
Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu rapidement le groupe, genre combien vous êtes sur scène, quel répertoire vous jouez et quels instruments sont présents ?
Alors nous, là on est trois, mais sur scène on est sept, donc il faut rajouter Florian Kergourlet à la guitare, Dunvel sur Zur qui vient juste d'arriver, à la trompette et à l'euphonium, Jean-Félix Aubois aux percussions et Kevin Collat, clarinette, saxophone et bombarde.
Est-ce que vous voulez bien décrire un petit peu ce qu'est un fest-noz pour les gens qui ne connaîtraient pas du tout cet univers-là ?
Alors le fest-noz, c'est le bal folk traditionnel en Bretagne, qui est pas tellement différent des autres bals folk en France et en Europe, avec la seule particularité, c'est qu'il y a des danses qui sont spécifiques à la Bretagne. On va piocher quelques danses extérieures à la Bretagne, parce que du coup, il y a des danses qu'on adore, qui sont super. La bourrée à trois temps, la mazurka, enfin toutes les danses en couple aussi, qui sont pas, absolument pas spécifiques à une région. Voilà, mais on a aussi du coup des danses comme les andros, les gavottes, des danses comme ça, qui pour le coup sont de chez nous. Et puis nous on s'est amusé aussi étant de Haute-Bretagne, donc de la partie est de la Bretagne, on vient de Rennes spécifiquement, et du coup il y a des danses de ce coin-là qui sont pas tellement jouées en Bretagne, même par d'autres groupes. On a été chercher des danses pas très connues, comme un avant-deux qui s'appelle le carillon par exemple, qu'on s'est amusé à jouer, l'avant-deux de Bazouge qui était pas tellement joué non plus, que lorsqu'on en a joué un sur scène. C'était joué mais pas tellement en fest-noz par des groupes avec une orchestration comme la nôtre, donc voilà, des petits amusements de notre part.
Comment vous composez, comment vous créez? Est-ce que vous créez en collectif et vous arrangez les morceaux spécifiquement pour votre groupe?
Comme Jérôme l'a dit tout à l'heure, il est à l'origine de pas mal de compositions. Après, les arrangements se font beaucoup entre nous, en fait, quand on répète. On lance des idées et on travaille ensemble. On passe beaucoup de temps à faire ça. Et les morceaux prennent forme de manière commune. Parfois, il y a des choses qui sont écrites, d'autres fois, ça ne l'est pas. Et ça se fait en commun.
En fait, au tout début, il y avait bombarde, violon, accordéon, guitare, basse et percussion. Et la trompette est arrivée plus tard. Ça a changé pas mal de choses, en fait, ce côté cuivre. Et on se le disait il n'y a pas longtemps encore, l'association bombarde et trompette, ça marche du feu de Dieu, quoi. Donc, et ça nous a amené, même si l'accordéon et le violon sont déjà des instruments qui vont dans ces contrées-là, en Europe centrale, tout ça. Mais clairement, la trompette, ça nous a encore plus embarqué dans ces directions-là, puisque bah, on va sans doute en parler, mais du côté métissé de la musique, tu nous posais la question. Oui, on fait du fest-noz, donc ça se danse breton. Mais après, les couleurs ont depuis longtemps été très diverses et variées partout dans le monde, puis en Bretagne en particulier. Et là, bah, voilà, la grande circulation des musiques fait que bah, on écoute plein de musique maintenant, probablement plus qu'avant, et que du coup, bah, les envies d'aller chercher des influences à droite à gauche arrivent très vite. Et bah, du coup, oui, il y a eu notamment l'Europe centrale à une période, avec la musique de cirque aussi, qui sont pas à confondre, mais qui sont assez proches quand même. Et après, les musiques d'Amérique latine, voilà, puis différentes choses. Il y a eu le Moyen-Orient aussi, des choses comme ça, de couleurs qu'on a apportées. Donc, où on peut danser en danse bretonne ou danse folk. Mais au niveau de la musique, du coup, c'est assez varié, quoi.
J'ai vu justement cet adjectif circassienne pour qualifier une partie de votre musique et de votre répertoire. Est-ce que c'est donc en rapport direct avec le cirque?
Le côté circassien, c'est que pour notre premier album, effectivement, on s'est dit, bon, allez, on fait les choses en grand, on va aller chercher des artistes qui viennent de d'autres univers, comme des gens du cirque, justement. Donc, lors d'une prestation, on a eu des clowns qui sont venus sur scène, et puis avec des marionnettistes aussi, il y avait un éléphant, un géant, et il y avait des danseuses orientales aussi. Le côté circassien, il est venu de ce délire-là au moment de la sortie du premier album, qui a justement sur la pochette un chapiteau de cirque. Et il y a des musiques là-dedans que j'étais allé chercher sur des disques de musique de cirque, notamment pour une gavotte. J'avais repris une mélodie qui était sur un de ces CD-là, et puis en lui tordant un peu le cou, c'était devenu une gavotte. Donc voilà où est le côté circassien. Après, on n'est pas plus acrobates que ça les uns que les autres. Voilà, ce serait même pas très glorieux, je pense, si on montait sur un trapèze.
J'ai cru comprendre que la composition du groupe a évolué depuis sa création. Vous avez dit qu'il y a une musicienne qui est arrivée là tout récemment. Est-ce que ça amène du coup une grande évolution dans le répertoire, dans la manière de jouer? Et est-ce que vous pensez que ça va encore évoluer dans le futur?
Oui, ça a beaucoup évolué. On va pas refaire tout l'inventaire des musiciens qui sont passés, mais dernièrement, donc Jean-Félix au bois, la percussion, est là depuis 2-3 ans. David, le percussionniste précédent, on était allé un peu le chercher parce qu'on avait fait un album un peu avec des sonorités d'Amérique latine, latino. Et bon, il est parti vers d'autres chemins. Jean-Félix est donc venu. Et puis là, vraiment dernièrement, ouais, Dunvel, elle est une formation plutôt New Orleans, jazz, parce qu'il y a aussi un petit peu ces couleurs là dans le répertoire. Donc voilà, elle est aussi là pour ça, elle chante un petit peu.
Pour terminer, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu vos prochaines dates, où on peut vous retrouver?
La prochaine fois, c'est au Pouliguen, dans le 44, fin juillet. Et on sera aussi au festival intercétique de Lorient, à la taverne du Roi-Morvan, un super moment. Et le 2 août, voilà, le 2 août à la taverne, ça c'est les prochaines dates. Voilà, je crois qu'il y en a qui sont en cours, peut-être octobre, novembre, voilà, à suivre.
Pour terminer en beauté cette immersion dans ce week-end de musique et de danse, je vous laisse avec un extrait du bal de Kendirvi.
L'après-midi n'est pas terminé, et puis il n'y a plus que trois quarts d'heure à Kendirvi, après c'est fini. Donc ces trois quarts d'heure-là, il faut les savourer, mais alors, faut les croquer à pleine bouche. Allez, on va commencer par un andro. Ça, c'est la danse où tout le monde vient danser.
Merci Maël pour ce reportage et maintenant je laisse la parole à Sada qui va nous parler de la série Euphoria.
Merci à toi Aurélie. Alors aujourd'hui je vais vous parler d'une série américaine qui ne laisse personne indifférent, Euphoria. Dès la sortie du dernier épisode de la saison 3, la série fait déjà énormément de bruit et pas seulement pour de bonnes raisons. Même à travers ses bandes annonces, elle s'est imposée comme un véritable phénomène mondial. Elle est la quatrième série la plus vue au monde sur HBO et une communauté de fans qui n'a jamais vraiment cessé de grandir. Ce qui frappe d'abord dans Euphoria, c'est son univers visuel. La série a une identité très forte, des lumières colorées, presque irréelles, une esthétique très travaillée, une bande-son marquante et des personnages qui ont chacun leur style bien à eux. Rien n'y est laissé au hasard et ça participe énormément à son atmosphère unique. Mais au centre de tout ça, il y a surtout Rue, interprétée par Zendaya. Elle incarne une adolescente confrontée au deuil et aux addictions et son jeu est très intense, très brut. On a parfois l'impression d'être face à quelqu'un de totalement perdu, mais aussi profondément humain. C'est clairement l'un des personnages les plus forts de la série. Depuis 2019, Euphoria aborde des sujets très lourds sans vraiment prendre de détour. Les addictions, les traumatismes, l'identité, les relations toxiques. La série ne cherche pas à adoucir la réalité et c'est justement ce qui fait qu'elle marque autant. Mais c'est aussi ce qui la rend controversée. Beaucoup lui reprochent ces scènes jugées trop explicites ou trop crues et les critiques ne s'arrêtent pas à l'écran. Il y a aussi eu des tensions en coulisses, notamment autour du réalisateur Sam Levinson et de certaines conditions de tournage, ce qui a alimenté les débats autour de la série. Certains reprochent aussi à la série son esthétique, très proche de celle de la photographe Petra Collins. Un article du magazine Elle explique qu'elle aurait influencé l'univers visuel de la série et même participé au casting sans être officiellement créditée. De quoi relancer le débat sur la reconnaissance artistique. Et puis il y a aussi la manière dont sont représentés certains personnages féminins. Le cas de Cassie, interprété par Sydney Sweeney, est souvent cité dans les débats autour du male gaze, c'est-à-dire la façon dont les femmes peuvent être filmées à travers un regard masculin qui insiste sur le corps ou la vulnérabilité. D'ailleurs, Sydney Sweeney elle-même se retrouve régulièrement au centre de débats médiatiques. Son image publique, très liée à Euphoria, continue d'alimenter de nombreuses discussions sur les réseaux sociaux et dans la presse. Alors au final, Euphoria c'est quoi ? Une série générationnelle qui ose tout montrer ou une œuvre souvent problématique dans ses choix ? Sans doute un peu des deux, mais une chose est sûre, qu'on l'aime ou qu'on la critique, elle continue de faire énormément parler d'elle et elle laisse rarement quelqu'un indifférent.
Merci beaucoup Sada. Ça y est, on arrive à la fin de notre émission. On termine en musique avec un groupe que Maëlle a pu capter en live pendant son reportage à Corby. C'est une polka de Rémi Geffroy. Info Club Sandwich revient dès demain. Très bonne journée à vous.
C'est la dernière. Merci encore à toute l'association qui peut manquer, avec qui ça a été super. J'ai passé un très bon moment. Merci à tous. Merci au son Aurélien. Merci à toute l'équipe et à très bientôt. On finit avec une polka. Thank you.